Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, 19h passé d'une minute, donc bienvenue dans Soft Power en direct jusqu'à 20h. Soft Power, le magazine de France Culture qui décrypte ou tente de décrypter la culture, les relations internationales, tout ça à travers le numérique, les médias et donc l'influence. Au sommaire ce soir donc de Soft Power, le focus sur les podcasts. Pendant une heure ce soir, nous allons nous intéresser à un phénomène média de grande ampleur, le succès des podcasts. Après les séries télévisées, le phénomène des podcasts apparaît comme un espace de créativité inattendu au succès surprenant. On peut écouter en podcast un peu tout, des histoires, de la fiction, de la non-fiction, par exemple le célèbre Serial ou désormais S-Town. On peut se cultiver, par exemple un podcast que j'aime bien, style Processing. On peut se mobiliser contre Donald Trump, il y a un podcast spécialisé. On peut être de droite ou de gauche, avec certains anciens collaborateurs, par exemple de Barack Obama, qui ont été réunis dans le podcast Pod Save America, et même d'extrême droite avec un podcast 51 de la droite alternative américaine. Bref, c'est toute une nouvelle culture qui émerge avec ses hits et ses codes, ses pratiques culturelles, mais aussi ses modèles économiques et ses plateformes de diffusion. Et c'est de tout ça, de tout cela dont nous allons parler ce soir. On s'intéresse donc au podcast dans Soft Power, trois invités en plateau pour décrypter le phénomène. Candice Marshall, cofondatrice de Boxon. Boxon que vous lancez, Candice Marshall, avec notre confrère et ami Pascal Clark, ce mardi.
Bonsoir Frédéric. Oui, tout à fait. Le site ouvrira ses portes à tous. On ne sait pas encore à quelle heure. C'est justement la web Boxon, mais ça sera bien mardi.
Voilà, un jeu de mots Boxon. Aussi, l'idée, c'est un peu comme on a des Dropbox, etc. On mélange les sons et les boîtes d'archives. Gabrielle Boé-Richard, cofondatrice de Binge Audio. Bonsoir.
Bonsoir.
En quoi consiste Binge Audio, lancé avec Joël René? On peut se droguer au podcast comme on se drogue aux séries télévisées?
Oui, c'est très bien. On pouvait binge drinker, binge watcher, maintenant binge listen. On écoute de l'audio. Binge Audio, c'est un réseau de podcasts nouvelle génération. Et plus on écoute, mieux c'est. Ouais.
Laurent Frisch, enfin, troisième invité ce soir, directeur du numérique à Radio France. Rebonsoir Laurent Frisch, on vous avait reçu il y a quelques mois lorsqu'on parlait de l'avenir de la radio. Et ce soir,
tout à fait, bonsoir Frédéric.
On va parler des podcasts plus spécifiquement. Podcasts, et alors là on se regarde le nombril, mais 45 millions de podcasts téléchargés chaque mois pour Radio France. Laurent Frisch, un succès inattendu qui ne se dément pas.
Inattendu, on l'a vu arriver, ça fait 10 ans qu'on est dessus et ça ne fait que progresser. On pensait que ça allait se tasser, ça continue, ça accélère même.
On en parle ce soir autour de cette émission consacrée entièrement au podcast sur France Culture. Toujours au sommaire de Soft Power, dans un instant je vous parle des fermes à clics et des usines à contenu. Et puis nous écouterons au cours de cette émission une dizaine de podcasts justement, ainsi que les nouveaux Kendrick Lamar et Down, ou encore un extrait de l'incroyable comédie musicale sur Jeanne d'Arc, hein, Joan of Arc, Only in America, New York bien sûr, tout ça dans Soft Power jusqu'à 20h. Cette émission est réalisée ce soir par Lionel Quentin avec un régie Bruno Gagnère-Fontanille. Elle a été préparée par David Lavaux, avec pour les réseaux sociaux François Flure, car vous pouvez également nous suivre et suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook, en podcast donc, et bien sûr sur France Culture en direct. Pour commencer cette émission, vous parlez des fermes à clics et des usines de contenu. Vous avez peut-être vu cette semaine, et encore d'ailleurs ce matin dans le journal du dimanche, des pages entières de publicité publiées dans les principaux quotidiens français et signées Facebook. Il s'agit d'une vaste campagne du géant numérique américain contre les fausses informations, les fake news. Si on suit les recommandations de Facebook, il faut donc se méfier lorsqu'on lit un article sur les réseaux sociaux. Et rappelons que 33 millions de Français sont sur Facebook et que pour la majorité des jeunes, par exemple, Facebook est leur première source d'information. Bref, Facebook recommande désormais de se méfier des titres et des photos, de contrôler les dates des publications des articles ou de vérifier les preuves apportées dans les textes que vous lisez. Ce que Facebook ne nous dit pas, en revanche, avec cette vaste campagne de publicité contre les fake news, et qui est aussi bien sûr une campagne auto-promotionnelle, c'est combien Facebook, mais aussi YouTube, qui appartient à Google, ou encore Twitter, sont eux aussi responsables de la diffusion de ces fausses informations. En fait, on peut même dire que Facebook est pris à son propre piège. Il y a quelques années, Facebook a créé des pages en plus des comptes personnels que vous avez sans doute, et ces pages, souvent utilisées par des entreprises, des marques, des médias, mais aussi des hommes politiques, ne fonctionnent pas du tout comme les comptes personnels, même s'ils ont les mêmes apparences. En effet, lorsqu'un média ou un homme politique poste une information ou un article sur sa page, celui-ci n'est lu grâce à un algorithme que par 7 à 8% de ses abonnés. Donc seulement 7 à 8% des abonnés de la page le lisent. Pour accroître la visibilité du post, il faut donc que l'article soit beaucoup cliqué, partagé ou commenté, donc qu'il y ait une conversation autour de cet article. Et c'est l'algorithme de Facebook, EdgeRank, c'est son nom de l'algorithme, qui va rendre l'article plus visible ou plus viral d'une manière non chronologique et selon un référencement non naturel. Pour être lu, il faut donc faire le buzz. Ou alors, il faut payer. Car bien sûr, un autre moyen de rendre votre publication plus populaire sur Facebook, YouTube, Twitter ou Instagram est d'acheter de la publicité. Voilà comment toutes les marques et les médias sont un peu obligés, piégés au sensationnel ou à l'exceptionnel pour faire parler d'eux ou condamnés à payer pour se faire lire, y compris d'ailleurs auprès de ses propres abonnés qui ont pourtant souscrit naïvement une page qu'ils ont aimée en pensant qu'ils en seraient régulièrement informés. Face au piège Facebook, des petits malins ont découvert la faille. Si vos contenus ne sont pas assez partagés, si vous ne voulez pas payer des publicités sur Facebook ou des contenus sponsorisés sur Instagram, YouTube ou Twitter, ce qui coûte cher, vous pouvez faire appel à des sociétés spécialisées, plus ou moins en marge de la légalité, souvent installées en Russie, en Europe de l'Est ou au Maghreb, qui vont construire votre popularité pour pas cher. Ainsi, vous pouvez acheter des likes, des j'aime pour vos posts, avoir des milliers de personnes qui partagent vos contenus, les commentent même, et bien sûr, vous pouvez acheter des dizaines de milliers de followers en quelques clics et pour quelques euros. On appelle ces sociétés des fermes à clics ou des usines à contenu. Là, des centaines de salariés sous-payés en Inde, en Ukraine ou au Maroc, par exemple, passent leur journée à cliquer, à liker des articles ou à s'abonner à des comptes. Voilà comment tel ou tel candidat à la présidentielle française passe d'un jour à l'autre de quelques milliers de followers à plusieurs centaines de milliers sur son compte Twitter ou Facebook sans qu'aucun militant réel ne les rejoigne. En définitive, ça coûte moins cher d'acheter de faux followers en Inde que de payer pour en avoir des vrais sur Facebook. S'agissant des usines à contenu, maintenant, l'exemple de la campagne de Donald Trump est significatif et on a découvert, quasiment stupéfait, grâce à une enquête de BuzzFeed, que de telles usines, entre guillemets, usines, avaient été créées en Macédoine, où des centaines de rédacteurs mal payés également écrivaient à la chaîne des articles pro-Trump, diffusés ensuite partout aux États-Unis sur des sites spécialisés, eux-mêmes nourris par la popularité factice fabriquée dans les fermes à clics. Ce qui, bien sûr, au-delà même de la bataille idéologique, leur rapportait beaucoup d'argent grâce à la publicité de leur site indexé sur le nombre de clics. Plus incroyable encore, il existe des applications qui détournent vos likes pour un jeu vidéo par exemple au profit d'une autre page. Par exemple, vous aimez bien une vidéo ou un jeu en ligne, vous likez pour l'aimer et sans le savoir, votre like va en arrière-plan liker une autre page pour une marque ou un candidat. Écoutez Yacine, il travaille en Tunisie pour la société Achafan sur 5euros.com. Il a été interviewé par Anne Brunel, notre confrère de France Info, pour l'émission Secret d'Info diffusée hier.
J'ai deux méthodes. C'est une application qu'on a développée, une sorte de jeu. Pour gagner des points, il faut cliquer sur j'aime. Et en arrière-plan, il clique sur le j'aime de la page. C'est-à-dire, j'injecte des faux profits. Je peux livrer jusqu'à 50 000 par jour en faux profit.
Voilà, il peut livrer jusqu'à 30 000 faux profils par jour. Ainsi donc, pour quelques euros, un candidat à la présidentielle, une marque ou un média dont les articles seront basés sur des faits alternatifs peut très bien obtenir des milliers de likes, de partages ou voir son nombre de followers augmenter rapidement sans que ses contenus n'aient connu le moindre succès. On voit bien les atteintes que cela pose au sérieux de l'information et à la démocratie. Mais ce n'est peut-être pas en achetant des pages de publicité dans les médias pour lutter contre les fake news que Facebook peut s'acheter en même temps et à peu de frais une bonne conscience ou une nouvelle virginité. Car le phénomène des fermes à clics et des usines à contenu est une conséquence indirecte de la monétisation folle des contenus sur les pages commerciales et politiques de Facebook, mais aussi des contenus sponsorisés de Twitter ou YouTube. Facebook est une sorte de docteur Follamour qui a lancé ces créatures s'est enivrée de ses succès commerciaux et peine maintenant à en réguler le flot et les conséquences délétères. Et nous ne sommes peut-être qu'au début de cette histoire.
Hello, Serial listeners. Sarah Koenig here with a quick message before we start the episode, which is that in case you haven't heard, we have a new show. It's called S-Town. And it's a 7-part podcast hosted by This American Life producer Brian Reed. I am so excited about it. It is weird. It is beautiful. It has a plot that goes in fascinating directions I did not see coming. All 7 chapters of the S-Town podcast are available now at stownpodcast.org or wherever you get your podcasts.
This is a Global CalLink prepaid call from
Adnan Sayed.
An inmate at a Maryland correctional facility.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
À l'instant, on écoutait l'extrait célèbre, au fond, de ce podcast, puisque c'est une émission consacrée au podcast, de Serial. Alors là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On a commencé par le plus célèbre et celui dont tout le monde a entendu parler, plus ou moins d'ailleurs, à savoir Serial, un podcast américain créé dans cette galaxie autour à la fois de NPR, même si c'est pas NPR qui l'a produit, The American Life, etc. On peut peut-être commencer à travers cet extrait, de dire un peu ce qu'est un podcast. Candice Marshall, Laurent Frisch, Gabriel Boéry-Charles. Candice Marshall.
Alors, dans le modèle qu'on est en train de développer, le podcast, pour nous, c'est un outil de diffusion. On comprend évidemment énormément de choses dans ce terme. C'est un terme qui commence déjà à dater aux États-Unis. Donc en France, je pense qu'il est temps peut-être de se l'approprier différemment. En tout cas, pour nous, c'est vraiment l'outil qui nous permet de la diffusion des contenus du média qu'on lance.
Laurent Frisch, on a cité Serial. Bon, on ne va pas y revenir tout au long de cette émission parce que c'est relativement ancien maintenant. Mais ça a été quand même la matrice, en tout cas le révélateur d'un phénomène.
Oui, enfin les podcasts existent depuis plus longtemps. Il faut rappeler d'ailleurs à ce sujet que le terme podcast vient de la contraction de l'iPod qu'Apple avait lancé au début des années 2000 et du broadcast, la diffusion habituelle, ce qui a fait d'ailleurs que nos amis québécois ont traduit podcast par balado-diffusion, qui est un terme qui dit quelque chose d'un peu différent. Oui, Serial a été un marqueur fort des podcasts. Il faut quand même insister sur le fait que ça vient d'un grand groupe de radio qui s'appelle la NPR, qui est la National Public Radio, qui est le service public américain de la radio.
Pas vraiment service public, mais en tout cas
une forme de service public de la radio.
C'est une association de loi. Loi 1901, disons, à but non lucratif.
À but non lucratif, qui a été lancé par la radio de Chicago en particulier, et qui était une formidable série.
C'est aussi The American Life, d'où le lien avec The American Life.
Serial est considéré comme un spin-off, et comme S-Town d'ailleurs, de The American Life. Un excellent podcast par ailleurs.
Quand on parle définition, Laurent Frisch, pour vous c'est quoi un podcast?
C'est devenu assez difficile à définir. Ça l'était, c'était très simple au départ. C'était des épisodes de souvent radio d'ailleurs qu'on téléchargeait sur donc un iPod ou un appareil portatif. Et c'est devenu aujourd'hui un peu synonyme d'un côté de replay radio et de l'autre côté d'émissions faites pour le numérique. Et donc il y a un peu ces deux dimensions qu'on retrouve derrière le podcast.
Tout simplement des émissions qu'on peut écouter en RCN en live sur sa radio.
C'est ça.
Ou alors des créations originales.
C'est finalement des choses à écouter. Avant tout.
En gros.
En gros.
Et ce n'est pas une web radio.
Non, pas du tout.
Ça serait quoi la différence?
Ce qu'on appelle une web radio, c'est simplement une radio diffusée sur le web et uniquement sur le web et pas en FM.
Donc l'idée du podcast, c'est un épisode ou une émission particulière à laquelle on peut s'abonner.
Oui, puis c'est d'abord de l'écoute à la demande. C'est-à-dire, on choisit à un moment, dans un certain contexte de vie, d'écouter telle ou telle émission, tel ou tel épisode, telle ou telle chose.
Gabriel Boury, Charles.
Je rejoins complètement cette définition et aujourd'hui, on devrait même parler plus que de podcast, d'audio parlé, puisque finalement, c'est ça qui s'est affranchi de la contrainte de diffusion hertzienne simultanée, qui se consomme effectivement à la demande, ce qui est très impliquant. Ça veut dire que c'est forcément exigeant. Et puis, pour vous donner une définition peut-être plus émotionnelle, tout à l'heure, lors de l'extrait de Serial, moi, c'est une série que j'ai suivie en direct aux États-Unis quand elle sortait, et je dois vous dire que ça me fait toujours une certaine émotion de l'entendre, et pour moi, ça fait partie de la définition.
Ce générique.
Ce générique, puis cette voix. Enfin voilà, là, ouais. C'est le podcast star. Mais il y en a plein d'autres, et je crois que le rapport à la voix, la puissance que ça a, évocatrice, complexe, intime, c'est très fort, et pour moi, ça fait aussi partie de la définition, alors, forcément.
Rappelons que Serial, c'était tout simplement une journaliste qui était allée rechercher dans l'histoire, dans le passé récent, la réalité d'un meurtre qui avait été commis en retrouvant les différents acteurs. Le criminel avait été condamné, et en l'occurrence était en prison, et elle a essayé de reconstituer ce qui s'était passé pour voir les faits. Et cela a conduit, phénomène aussi intéressant, ça a conduit finalement la justice à regarder le cas et à le rejuger. Si on regarde l'ampleur du phénomène, comment est-ce que vous l'analyseriez, Laurent Frisch, par exemple? C'est quoi le podcast aujourd'hui, sa progression, son nombre de podcasts? On en est où? On disait 45 millions pour Radio France, mais au-delà de Radio France,
50 même à vrai dire. La progression est assez vertigineuse. On n'a pas de chiffre officiel parce qu'il n'existe pas de mesure officielle en France ou ailleurs dans le monde. Néanmoins, d'après les différents indices et les recoupements qu'on peut faire, notamment les chiffres que Apple peut donner, ça augmente au rythme d'à peu près 50% tous les deux ans, voire même plus vite pour certains pays. Je crois qu'en France, ça augmente nettement plus vite. J'aurais eu tendance à dire qu'on a doublé en deux ans quasiment. Il y a clairement une croissance des usages qui est liée à l'adoption de ces petits appareils qu'on a plus ou moins tous dans la poche. Trois quarts des Français, à peu de choses près, ont des smartphones. Et c'est quand
même
hyper simple d'utiliser,
de
télécharger des podcasts.
Est lié fortement au smartphone?
Pas uniquement, mais je pense que ça attire vraiment les usages vers le haut, tellement c'est pratique. Et tellement aussi, ça fait entre guillemets, de la radio à emporter avec soi, qu'on fasse son jogging, qu'on soit dans sa cuisine, qu'on soit dans le train ou dans le métro. Oui, c'est super pratique. Donc, ça favorise fortement les usages.
Gabriel Boury, Charles.
C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose d'étrange à employer le terme podcast, qui est un terme du début, milieu des années 2000, très lié à une époque où il fallait télécharger son programme avant d'aller faire son footing, et on passait autant de temps à télécharger qu'à faire son footing. À l'époque d'aujourd'hui, depuis le début des années 2010, où après, c'est toujours la même chose, mais ça n'a plus rien à voir parce que c'est tellement plus facile, tellement plus commode que les usages ont pu vraiment augmenter. Moi, j'ai le chiffre pour les usages France. J'ai calculé qu'on avait fait à peu près fois 6 en 5 ans. Donc un taux de croissance au-dessus de la moyenne mondiale, on va dire.
Alors le point important, ouais. C'est qu'au départ, on pensait que le podcast était un abonnement. Il fallait s'abonner. Tout ça arrivait sur iTunes notamment, pas seulement, mais beaucoup sur iTunes. Aujourd'hui, en fait, comme les téléphones sont connectés, on peut à tout moment aller chercher ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'écouter tous ces podcasts qui se sont accumulés parfois avec le problème de saturation qu'on connaît bien sur Internet, tout simplement.
Oui, tout à fait. Et on a une très, très grande liberté dans l'utilisation de ces sons sur le smartphone, comme le disait Laurent Frisch. Je voulais revenir justement sur ce que Laurent disait tout à l'heure. Quand on parlait des podcasts, à 95%, c'est de la réécoute. C'est ça, il y a très peu de création aujourd'hui. Je pense qu'on est en train d'inverser le mouvement avec Binge, avec déjà Arte depuis très longtemps, avec Boxon, voilà. Je pense qu'on essaye de faire basculer ça, de revenir vraiment vers la création originale. Alors, 50 millions de podcasts téléchargés sur Radio France, c'est énorme. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est combien sont écoutés vraiment. Et puis, peut-être que le service public s'empare de nouveau de la création radiophonique et ne fassent plus que proposer justement de la réécoute.
Ils sont écoutés assez régulièrement, puisqu'au bout de quelques semaines, si on n'écoute pas un podcast, l'abonnement s'arrête. C'est ça, Laurent Frisch ?
Oui, alors on va quand même préciser qu'il y a une singularité qu'il y a à Radio France en France, alors qu'au niveau mondial, on a plutôt 80% de podcasts qui ne viennent pas de la radio. En France, ça serait plutôt l'inverse, peut-être pas 95%, comme vous le dites, Candice, mais probablement autour de 80%. Et dans les podcasts qui sont téléchargés de Radio France, vous avez un bon nombre d'émissions de flux, c'est-à-dire des émissions qui passent assez vite et dont la fraîcheur se dissipe assez rapidement, mais vous avez énormément de productions patrimoniales.
Alors d'un côté, on peut réécouter le journal de 8h, je sais pas, de France Inter par exemple, avoir aussi un humoriste ou une chronique. De l'autre, c'est des émissions plutôt de patrimoine. Lesquelles par exemple?
Je vais vous donner quelques exemples qui vous montreront que ce sont quand même des émissions qui ne sont pas, qui ne vivent pas avec le, ou qui ne passent pas avec le flot de l'actualité, comme Affaires Sensibles, La Tête au Carré, qui est une émission de science, Les Chemins de la Philosophie, sur Les Chemins de la Philo, sur France Culture,
qui arrive
la Fabrique
en tête
de l'Histoire,
avec 2 millions de podcasts.
Plus de 2 millions, ouais. ce qui est énorme pour une émission de philosophie dont on pourrait penser qu'elle exige une attention particulière au moment de l'écoute, et c'est le cas. Elle est très téléchargée, ce qui est assez encourageant quand même, et ce qui montre que les podcasts ne sont pas une incitation à télécharger des choses faciles ou débilisantes.
Et parfois, il y a des choses qui vous étonnent. Je sais pas, une émission de France Musique, par exemple, qui serait pas forcément, aurait peut-être pas une très grande audience en hertzien, mais qui se révélerait en podcast.
Pourquoi citez-vous France Musique? Vous allez me mettre en porte-à-faux.
Non, je pense à la critique de.
C'est pas votre objectif quand même.
La critique des disques, qui est
la tribune des critiques de Scoob, puisque vous citez cet exemple, ça doit être la plus ancienne émission radiophonique toujours existante. Elle doit avoir 70 ans d'âge, et c'est. Vous savez, c'est plusieurs critiques qui débattent de différentes interprétations et qui choisissent à l'aveugle la meilleure d'après eux.
Et pas tout à fait à l'aveugle d'ailleurs, mais ils choisissent...
Si, à l'aveugle, à l'oreille.
Ils écoutent, voilà.
Ils écoutent, ils ne savent pas de quelle interprétation il s'agit et ils choisissent celle qui leur semble être la meilleure. Les interprétations sont révélées une fois après qu'ils ont choisi ou qu'ils aient éliminé...
Mais c'est aussi parce qu'ils ont une bonne oreille, donc voilà.
Et c'est effectivement très téléchargé. Et alors, je dois vous avouer que dans mon téléphone, j'en ai un certain nombre en retard, parce que c'est une émission qui est longue, qui faisait 1h30, qui fait maintenant 2h, que j'ai tendance à écouter moi en plusieurs fois, ce qui est aussi une des choses qu'on peut faire dans l'écoute en podcast, qu'on ne peut pas faire à la radio quand on l'écoute en direct. Et effectivement, on a ce genre d'émissions qui, alors, sont pas des créations au sens où vous l'entendiez, mais sont des émissions qui parlent de culture, sont des émissions qui parlent de choses qui sont aussi assez importantes de mon point de vue et qui ont une valeur patrimoniale dans le sens où vous l'écoutez 20 ans après, c'est pas ce qu'on fait, mais vous l'écoutez 20 ans après, c'est toujours aussi bien.
Hélène, prologue. Vous allez écouter l'histoire d'Hélène. J'ai connu Hélène il y a quelques années, dans un théâtre. Dès que je l'ai vue, j'ai su que je voulais devenir ami avec elle. C'est une femme très enjouée, vous allez l'entendre. C'est quelqu'un qui vit deux fois plus que les autres. Et pourtant, Hélène, pour des raisons que vous allez bientôt apprendre, ne peut jamais profiter de ses soirées. Elle n'a pas le droit de boire un verre d'eau. Elle ne peut pas manger ce qui lui fait plaisir. Et donc, avec Hélène, on se voyait régulièrement, le samedi surtout, on prenait un café en fin de matinée et on parlait beaucoup. Et puis un jour, Hélène a disparu, ou disons qu'elle ne m'a plus donné de nouvelles.
À l'instant, le prologue de la série Hélène, produite en 12 épisodes d'une dizaine de minutes chacun par votre société Binge Audio, Gabriel Boboeri Charles, de quoi s'agit-il en l'occurrence ?
Hélène, c'était la première saison d'un podcast qu'on a appelé Super Héros et qui va s'intéresser au cours de sa vie à plusieurs personnages. C'est un documentaire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne réelle. Hélène existe vraiment. Et c'est un récit réalisé par un auteur qui s'appelle Julien Cernobori, qui est bien connu de la maison Radio France d'ailleurs, qui a enregistré Hélène pendant des heures et des heures durant, qui a ensuite passé un grand nombre d'heures aussi à monter, à intégrer de la musique originale pour faire parler de cette femme, de sa vie, avec toute une scénarisation à partir de réel, mais une forme de storytelling, un enchaînement des épisodes pour à la fois intéresser, tenir en haleine, émouvoir, et qu'on écoute tout simplement parce que c'est une histoire.
Box 100.
Our goal is freedom. I want to live freely. I want to be a free man, and my goal is to live free.
J'ai rencontré un migrant. Aujourd'hui, je l'appelle frère. Samy a 28 ans. Arrogant au premier coup d'œil, dans sa bande, c'est lui le boss, et en même temps si vulnérable. Des cheveux frisés coiffés comme un joueur de foot. Sa démarche, tellement singulière, avec une jambe qui boite, déracinée, et ce même regard, on s'y perdrait tellement il est noir, noir ébène, déterminé, impénétrable. J'ai rencontré un jeune homme en colère, enragé et courageux, condamné à ne pas renoncer. Il avance sous pseudo, Samy. En même temps, un prénom, qu'est-ce que c'est ?
Samy, un Érythréen qui a été suivi par Marie Monnier pendant 3 ans, 5 épisodes de sa vie. C'est un extrait pris dans la catégorie donc chez Boxon, des sujets que vous ne lâchez pas, Candice Marshall.
Ah oui, ça doit faire, je ne sais pas, 30 fois que je l'écoute et j'ai encore des frissons dès que j'entends la voix de Marie et de Samy. Oui, voilà un exemple de ce qu'on peut faire sur Boxon. On avait une très belle histoire, on avait une journaliste avec une très belle écriture. Et puis on a dit on y va, on verra le temps qu'on y passe. Et ce temps, il s'est construit tout seul après l'enregistrement et on s'est dit c'est idéal pour en faire un 5 fois 10 à 12 minutes. Et c'est la liberté qu'on a à Boxon, c'est de pouvoir prendre le temps de développer, de se mettre à hauteur d'homme aussi, d'y aller avec tout notre cœur, toute la sincérité, et ça donne Samy.
Voilà, un podcast que vous lancez cette série mardi sur Boxon, Candice Marshall avec notre confrère et ami Pascal Clark, qui vous avez co-créé, co-fondé cette société. Troisième exemple français, maintenant un extrait d'un épisode de Transfert, c'est un épisode intitulé « Peut-on ne jamais tomber amoureux ?»
Aujourd'hui dans Transfert, quelqu'un à qui il a manqué, pendant la moitié de sa vie, un bout de son propre récit. C'est quelqu'un qui s'appelle Gwen, que j'aime infiniment, qui est ma cousine, et qui m'a raconté son histoire.
Je me suis toujours dit que j'étais, que je fonctionnais pas comme les autres, que j'arrivais pas à toucher une part de mes émotions que les autres arrivaient à toucher. Mais jusqu'à ce que j'apprenne la vérité, je ne me suis jamais dit « Ah, peut-être que c'est dans ma famille, peut-être que c'est quelque... » Jamais.
En l'occurrence, un podcast Transfert produit par Slate et Charlotte Pudlowski qui raconte l'histoire vraie, en l'occurrence, de sa cousine. On en a trois exemples. Laurent Frisch, vous disiez, au fond, singularité française. C'est une singularité juste à cause de la domination de Radio France dans ce secteur encore, mais aussi d'un point de vue de créativité, d'un point de vue du modèle de diffusion. On reviendra sur tout ça tout à l'heure, mais...
Non, il n'y a pas une singularité française du fait que les podcasts, c'est bien à écouter. C'est vrai partout. C'est quand même beaucoup dépendant de la qualité de l'offre. Et c'est vrai que l'offre française était très tôt de qualité, je pense, grâce à Radio France. Et on voit plein d'autres acteurs se développer en ce moment et la nourrir et l'enrichir. C'est moins le cas, probablement, ou ça a moins été le cas dans pas mal d'autres pays, ce qui fait que l'émergence a été un peu plus tardive, mais elle est réelle. En matière de création, puisqu'on évoquait ça tout à l'heure, j'aimerais donner un chiffre. On n'est pas loin du million de téléchargements de podcasts de France Culture sur des fictions radiophoniques. Ce qui montre que non seulement on arrive à produire des émissions, des programmes, en l'occurrence des fictions de qualité, mais on arrive aussi, grâce à ce nouveau médium, on va dire, à trouver un chemin pour ces programmes vers des nouvelles paires d'oreilles. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant. Ouais.
Et saluons d'ailleurs le travail de Florent Latrive, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui coordonne le numérique ici à France Culture. Alors, dans une deuxième partie d'émission, on reviendra sur les podcasts, mais d'un point de vue des formats et des usages. On reviendra sur leur durée, la vitesse, mais surtout sur la créativité, comment cette créativité est possible. Et puis, dans une dernière partie, nous parlerons des écoute technique, des modèles économiques et de la mesure des podcasts. Tout ça ce soir dans Soft Power, émission entièrement consacrée aux podcasts.
be going 90 down the Brea. Really, cause that shit don't matter. MJ on the radio, so we blast her. We just wanna know if it really matters. We just wanna know, yeah. We thought we was above it all, cause Pippi Francis Wayne was a hot boy. He said we should keep driving for the sake of surviving. Now we hot boy. We thought we was above it all, cause Pippi Francis Wayne was a hot boy. We should keep driving for the sake of surviving. Now we hot boy. These LA streets are killing me. These LA streets are killing me. These LA streets are killing me. These LA streets are killing me.
À l'instant, 19h32 sur France Culture, en direct, émission consacrée au podcast. Et on a écouté la chanteuse de LA Down, chanteuse de Los Angeles, mais aussi en fait de Louisiane. Et même si sa chanson s'intitule LA, c'est sans doute un jeu entre LA où elle vit et la Louisiane où elle a grandi, où elle est née. Et en l'occurrence, on écoutait avec un extrait de Trombone Shorty qui participe en guest star dans ce morceau auquel il a donc été invité. Vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h. Vous pouvez vous abonner au podcast justement de Soft Power. C'est sur iTunes ou aussi tout simplement sur l'application podcast de votre smartphone, que ce soit un Samsung ou un Apple.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Nous sommes avec Laurent Frisch, directeur du numérique à Radio France. Candice Marshall, cofondatrice de Boxon, qui sort à partir de mardi cette semaine. Gabrielle Boéry-Charles, cofondatrice de Binge Audio, qui existe déjà. Trois acteurs au fond de cette industrie, si on peut dire, des podcasts. Les podcasts, succès phénoménal, on l'a dit, succès aussi français. Et maintenant, dans cette deuxième partie d'émission, on va se consacrer à ces différentes... rentrer un peu dans la machine, voir comment ça fonctionne. Ces formats, ces usages, la créativité, mais aussi les modèles économiques des podcasts. Et pour commencer, peut-être un mot sur les usages. Laurent Frisch, vous citiez tout à l'heure le fait qu'on pouvait utiliser un podcast parce que, évidemment, ça peut s'écouter contrairement à une série télévisée. On ne peut pas conduire avec une série télévisée. On ne peut pas forcément, pas toujours faire du sport avec une série télévisée. Par contre, on peut le faire avec un podcast. Au fond, par rapport aux séries télévisées, c'est l'idée qu'on peut faire autre chose tout en écoutant le podcast.
Oui, c'est ça qui a déjà fait le succès de la radio à l'origine et qui fait aujourd'hui le succès du podcast. On peut faire autre chose en écoutant de la musique, en écoutant une émission parlée. On peut courir, on peut prendre son petit déjeuner, on peut se déplacer, on peut l'écouter dans la voiture de plus en plus. On constate de l'écoute à la demande en conduisant. Donc oui, c'est un des atouts forts. Maintenant, malheureusement, pour ces formats-là, ce que vous disiez sur la voiture risque de ne plus être vrai éternellement. Je pense qu'un jour, on pourra aussi regarder des séries télévision, des séries télé.
Oui, quand la voiture
à la
sera
voiture,
automatique.
Quand elle se conduira toute seule.
Mais on a un petit peu le temps.
Ou déjà aujourd'hui, quand on n'en est pas le conducteur.
On peut aussi prendre sa douche, on peut faire les corvées. Un truc très connu, c'est les corvées de ménage, repasser, faire la cuisine. Et je salue d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent un dimanche soir à 19h30, c'est l'heure où on commence à préparer le repas. Et
oui, ou être déjà au barbecue, peut-être.
Voilà, barbecue, le road trip. Alors évidemment, c'est pas formidable si vous êtes pendant 8h ou 9h sur la route. Il y a l'inspiration aussi, il y a la relaxation, on l'a dit, le sport, le workout, et puis il y a des montées de temps de transport, pas simplement d'ailleurs en voiture, mais aussi en métro, en train, et où là le podcast Candice Marshall est très adapté.
Oui, absolument. Et puis je voudrais préciser une chose aussi, le podcast, le son en tout cas, c'est le médium de l'intimité. On peut tout faire, en effet, comme Laurent le disait très bien, on peut faire être à l'extérieur, mais être chez soi, faire des tâches ménagères ou bien d'autres choses beaucoup plus intimes et personnelles. Voilà, c'est un média de l'intimité, donc c'est quand même très important d'y raconter des histoires humaines.
Donc ça joue aussi,
oui,
ce rapport-là, mais c'est le rapport de la radio finalement, là, pour le coup.
Certainement.
Qui a toujours eu un rapport très particulier, privilégié depuis, on se souvient, la guerre des mondes d'Orson Welles, où les gens croient, sont là parce qu'on leur parle.
Alors, il y a aussi des podcasts, pardon, aussi plus utilitaristes, comme apprendre des langues, des podcasts de culture générale pour se mettre à la page, des podcasts de cuisine, etc. etc. Ça n'est pas
très
que...
pratique.
Voilà, des choses très pratiques.
Ce qu'on appelle les how-to aux États-Unis, c'est-à-dire comment faire, comment apprendre, comment quelque chose qui va être directement didactique.
Exactement,
ouais. I'm Jenna Wortham.
I'm Wesley Morris. We're two culture writers at the New York Times.
I mostly write about how humans relate to technology.
And I mostly write about how movies and popular culture relate to humans.
Nice.
Thank you.
This is Still Processing.
À l'instant, un extrait d'un épisode du podcast produit par deux journalistes du New York Times qui s'intéressent notamment au phénomène de la culture, la haute culture, la culture de masse, la culture populaire. Tous les deux sont au New York Times. Wesley Morris et Jenna Fortum, qui a un grand succès. Il faut dire qu'il est très promu un peu partout par le New York Times. On voit que le podcast, ça peut être aussi de la discussion culturelle. Au fond, c'est une sorte de masque et la plume culturelle où on va échanger, discuter de la qualité de tel ou tel film, etc. Il y a un autre podcast qui s'appelle Pop Culture, d'ailleurs, Pop Culture Happy Hour, et qui est là aussi une version du Masque et la Plume podcast. Et par ailleurs, le Masque et la Plume existe aussi en podcast, Laurent Frisch.
Oui, et Télérama d'ailleurs, un podcast aussi culturel comme ça, de discussion autour de films, par exemple. Il n'y a pas que des podcasts américains qui existent en la matière, et Dieu merci.
Ça permet, lorsqu'on parle de politique pendant une semaine d'élection, si on parle des Américains, on n'est pas dans les quotas du CSA, ce qui est une façon de parler politique sans parler des 11 candidats qui sont à la présidentielle cette année. Puisqu'on parle politique, voilà, typiquement un podcast politique. Écoutez.
The presenting sponsor of Pod Save America is Blue Apron.
Blue Apron.
Blue Apron, the number one fresh ingredient and recipe delivery service in the country. Blue Apron's mission is to make incredible home cooking accessible to everyone. Do you think they make the Mar-a-Lago chocolate cake?
I think they don't because, you know, unlike Blue Apron, Mar-a-Lago has terrible health safety ratings.
Did you hear that today? On va pas vous traduire le podcast dans les détails. En fait, il s'appelle Pod Save America. C'est les anciens collaborateurs ou certains anciens collaborateurs d'Obama, notamment Jon Favreau, qui était la jeune, depuis il a un peu grandi, hein, plume d'Obama, et qui ont lancé un podcast coproduit avec des boîtes assez sérieuses et qui, en fait, vise à tout simplement lutter, construire la bataille contre Donald Trump. Donc c'est comment on se mobilise contre Donald Trump par les anciens collaborateurs d'Obama. C'est assez drôle, ça s'appelle Pod Save America. Alors on a parlé des usages, un peu des formats. Un mot sur les canaux de diffusion, parce que à l'époque, le podcast était beaucoup sur iTunes, donc chez Apple. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit au fond que la plupart des podcasts qu'on a écoutés là, on peut aller sur leur page et tout simplement les écouter. Et alors on ne sait pas d'où vient le son, mais il est hébergé quelque part, mais peu importe pour l'auditeur. On peut être, et c'est sans doute un des usages les plus fréquents aujourd'hui de suivi des podcasts, c'est tout simplement sur son smartphone, il y a une application, que ce soit sous Android ou sous iPhone, qui s'appelle Podcast. Eh bien, vous avez votre podcast là-dedans. Il y a bien sûr le flux RSS, si on est un peu plus techno. Et puis, il y a d'autres applications, par exemple Google Play, Radio Public, SoundCloud, Medium, et même Spotify, qui proposent des podcasts. Et en fait, on va pouvoir s'abonner en fonction du podcast qu'on veut suivre sur n'importe quelle plateforme, selon les cas. Laurent Frisch, comment est-ce que vous analyseriez cette évolution en termes de canal de diffusion et les plateformes de diffusion?
J'aimerais rajouter aussi Deezer dans les plateformes que vous avez citées, puisque mais en fait, Deezer est française, donc Deezer, autant la citer.
Elle n'est plus française, Deezer a été rachetée par les Américains.
Mais elle est toujours basée à Paris.
Deezer et Spotify se sont mis assez récemment, paradoxalement, au podcast.
Oui, parce que ces deux offres veulent devenir, à ce que je comprends, des plateformes où on centralise tout ce qu'on veut écouter. Sa musique, sa radio, puisqu'elle diffuse maintenant des radios en direct, hein, comme France Culture, et des podcasts venant de la radio et des podcasts ne venant pas de la radio également. Je pense que de très nombreux acteurs, on le voit, ont pris conscience de l'intérêt de ce format pour garder des utilisateurs. C'est d'ailleurs, je pense, dans le cœur de la stratégie d'Apple pour avoir poussé ça très très tôt. L'idée, en rendant l'écoute de cette radio à la demande extrêmement simple, extrêmement fluide, de garder des gens dans l'écosystème d'Apple. Et d'ailleurs, vous noterez que c'est beaucoup moins développé dans l'univers de Google et d'Android, les podcasts. Il n'y a pas une application comme celle qui s'appelle Podcast sur Apple, il y en a plein. C'est plus compliqué de s'y retrouver au début. Une fois qu'on a branché les bonnes choses, ça marche tout aussi bien et c'est tout aussi plaisant. Mais c'est quand même plus compliqué d'y rentrer. Apple a parié très tôt dessus.
Vous, Boxon et Binge Audio, vous avez choisi quel mode de diffusion les uns les autres?
Binge Audio, on choisit d'être partout où les gens sont et où peuvent nous écouter. Donc effectivement, comme disait Laurent Frisch, Apple est quand même un acteur dominant et grosso modo, pour la plupart des acteurs, ça représente à peu près les trois quarts du lieu d'écoute, notamment sur smartphone. Mais on est aussi sur d'autres plateformes parce qu'il y en a d'autres. Spotify, Deezer s'y mettent et ils ont raison parce qu'aux États-Unis, par exemple, on remarque que les gens qui écoutent des podcasts régulièrement, mettons tous les mois, ils consacrent un tiers de leur temps d'écoute. Et là-dedans, je compte tout, la musique, etc. Donc on voit bien qu'il y a un besoin de parler. Le être plateformisé, comme on dit techniquement, ça veut dire être partout où les gens sont. Et tout à l'heure, vous vous interrogez, est-ce que les gens écoutent en téléchargement, streaming? À la limite, on s'en fiche. Enfin, on fait tout techniquement pour permettre les deux. Mais l'important, c'est qu'ils puissent nous écouter à la demande, où qu'ils soient. Le fait qu'Apple soit dominant aujourd'hui, moi, je le vois comme une opportunité. Ça veut dire que tous les gens qui ont Android ou d'autres marques sont des gens qu'on peut conquérir. Alors, des apps se développent, je ne vais pas toutes les citer. Mais on voit plein d'acteurs, notamment américains, qui se lancent. Je ne sais pas quelle app sera dominante demain, mais il y a une belle effervescence technique. Et pour nous, producteurs, c'est bien que ce monde-là technique se développe en parallèle.
Boxon.
Alors Boxon, c'est très, très différent, très particulier, parce que d'abord, on est un média sur abonnement. Donc nous aurons des choses assez fraîches chaque jour à mettre en ligne gratuitement. Mais globalement, notre écoute est payante.
Ce qui est très exceptionnel dans le podcast.
Oui, on n'arrive pas à avoir un modèle équivalent aujourd'hui sur iTunes parce qu'on va sortir au moins un à deux sons par jour, tous les jours, avec des formats très différents, sur des séries différentes, peut-être parfois en épisode. Donc pour le moment, on ne s'inscrit, nous, que sur notre site et l'appli qui sortira très très prochainement.
Alors vous avez ouvert le débat sur les modèles économiques, venons-y. Alors il y a le modèle d'abonnement, vous visez, c'est quoi, 9 euros par mois?
Alors 9 euros par mois, 90 à l'année, évidemment moitié prix pour les chômeurs et moins de 25 ans.
Et vous visez l'équilibre, ça fait à combien d'abonnés à peu près?
On vise l'équilibre à environ 6000 abonnés.
Mais est-ce que, question naïve, pourquoi 9 euros en visant 6000 abonnés, pourquoi pas 2 euros en visant 50 000?
Alors parce qu'il fallait d'abord pouvoir payer les journalistes. Ensuite, malheureusement, on n'a pas encore d'agrément CPPAP et donc on a une TVA à 20% au lieu des 2%. Voilà, c'est un combat aussi qu'on mène avec notre syndicat. Donc on aurait aimé évidemment mettre un abonnement beaucoup moins cher.
From Pacifica, this is Democracy Now! The GBU-43 is a large, powerful.
Alors là, on a à l'instant un autre exemple. C'est le podcast célèbre de Democracy Now. C'est le podcast un peu de la, comment dire, de la gauche radicale américaine qui se mobilise autour, elle aussi très anti-Trump, mais beaucoup plus puisqu'elle est très 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 à gauche. Et là, on a un modèle au fond essentiellement de militantisme. Donc même si ces podcasts sont relayés sur tout un réseau de stations radio aux États-Unis qui s'y abonnent et donc achètent ces contenus pour les diffuser, on a un modèle assez classique de militantisme et de diffusion à travers les États-Unis sur les différentes chaînes. Quels sont les autres modèles envisagés, peut-être expérimentés même, Laurent Frisch?
Oui, je voulais juste mentionner que Bernie Sanders a aussi lancé son propre podcast qui a fait beaucoup parler de lui. Il en est déjà à 4 épisodes. C'est assez intéressant à écouter.
Oui, Hillary Clinton avait un podcast pendant la campagne présidentielle américaine qui était d'ailleurs assez drôle, tout à fait fake parce qu'on voyait bien que c'était fait par un journaliste ami, mais en même temps qui était très bien fait, donc ça avait un certain...
Ce qui montre que pour les politiques, les podcasts sont déjà un média à part entière.
Les modèles économiques, on a quoi, le fameux modèle publicité avec des pré-rolls, comme on appelle ça, c'est-à-dire des petites publicités au début, généralement parfois une, deux, parfois trois au début du podcast. Il y a les podcasts payants, ça a été évoqué autour de Boxone. Il y a le crowdfunding, vous l'avez d'ailleurs aussi utilisé à Boxone pour vous lancer au début, pour trouver une base financière et peut-être d'abonnés pour une part. Comment est-ce qu'on peut envisager le futur des modèles économiques des podcasts les uns les autres?
C'est très compliqué, je pense qu'il faut dire un mot d'abord sur ce que ça coûte. Ça coûte un travail d'écriture, un travail de production, un travail technique de montage, puis d'hébergement et de diffusion.
De bande passante, etc. Donc les coûts sont importants.
Et puis avec ce qui fait une des caractéristiques d'Internet, qui est que plus vous avez de succès, plus ça vous coûte effectivement en bande passante. Et il faut trouver un moyen de financer tout ça. La publicité n'a pas démontré aujourd'hui que c'était un modèle extrêmement rémunérateur, en tout cas autosuffisant, qui permettait d'être autosuffisant. Ça peut arriver en complément d'autres sources de financement.
Quelles sont les autres pistes qu'on pourrait imaginer, Gabriel Bory, Charles?
Peut-être déjà pour rebondir sur les coûts, il est clair que produire du podcast est du bon podcast, parce qu'un podcast c'est à la demande, on doit être bon, on nous demande, on va nous chercher, on tombe pas dessus par hasard sous la douche, il faut être bon.
Ça peut... Même s'il y a des podcasts spécialisés pour prendre sa douche.
Hein. Oui, tout à fait, mais dans ce cas-là on l'allume exprès.
Non, on en a même fait un pour aider à s'endormir d'ailleurs.
Voilà, tout à fait.
Et le plus célèbre dans la série s'appelle Sleep With Me, et quand vous écoutez la voix qui est très très lente... Effectivement, au bout de 10 minutes, vous dormez parce que c'est assez saoulant.
Ouais. Mais on a quand même des coûts qui peuvent être différents pour des choses écrites, produites. Le documentaire super-héros, évidemment, il a un coût supérieur à des formats de talk, de discussion qu'on produit aussi à Binge Audio, par exemple sur le cinéma, nos ciné ou sur le rap, nos fun. Et il y a moyen quand même d'expérimenter des choses. On est sur des coûts qui sont quand même beaucoup plus bas que sur la vidéo. Et nous, à Binge Audio, en ce moment, on est en pleine effervescence. On fait des pilotes, on teste les choses et le son permet quand même ça. Mais pour vous répondre sur les recettes, on imagine à Binge Audio, on déploie plusieurs lignes de recettes. La première, c'est le parrainage avec des volumes qui seront jamais ceux d'une radio hertzienne, mais qui seront, où la valeur sera fondée sur l'adhésion, l'engagement de l'auditeur par rapport au podcast, qui aime son podcast et qui, quelque part, aimera un peu la pub, même s'il est très clair que c'est commercial. On travaille aussi sur la disposition à payer du public. Alors, on a fait un crowdfunding en début d'année. On accueille le public à nos enregistrements en les faisant payer une modique somme, mais ça montre leur engagement. Et puis, je pense qu'il y a des passerelles à faire avec le livre audio, avec des contenus qui sont payants, dès lors qu'ils sont un peu plus denses. Et puis, troisième source de revenus, la production de podcasts pour les tiers. Parce que comme l'audio est un média puissant, on pense que c'est aussi un outil de com et on commence à en faire pour des clients.
Alors, par exemple, il y a une marque, Havas, pour ne pas les citer, Havas Paris, qui a lancé Paris Digital. C'est un podcast qui s'intéresse à la vie numérique, avec un axe Paris, mais aussi les innovations, etc. Comme quoi, les entreprises de communication, les agences de communication, mais aussi les marques ont déjà où on pensait à leur podcast.
From KCRW, I'm Kim Masters and this is The Business.
Alors là, un podcast célèbre, The Business, édité par KCRW, radio américaine, podcast qui justement parle des industries culturelles et notamment d'Hollywood, puisqu'il est basé à Los Angeles, et ça permet de comprendre à travers ce podcast la vie de la culture de masse. On n'a pas évoqué la mesure des podcasts, Laurent Frisch, parce que pour commercialiser, pour avoir de la pub, il faut savoir un petit peu combien de gens les écoutent. Par exemple, si on veut savoir les 20 podcasts les plus populaires en France, on a du mal à avoir des chiffres sérieux.
Ben oui, on ne l'a pas évoqué parce que ça n'existe pas aujourd'hui, la mesure des, des podcasts.
Chacun a un peu bidouille sa technologie.
D'acteurs, dont Binge, dont nous, y travaillons en ce moment avec d'autres acteurs de la radio, des podcasts ou des plateformes. Parce qu'on voit le marché mûrir, on voit les usages se développer et on trouve ça rageant de pas pouvoir mesurer réellement ce qui est téléchargé, ce qui est écouté, combien de temps c'est écouté et avoir des choses un peu plus précises sur qui sont les auditeurs des podcasts.
Et Médiamétrie peut pas fournir ça partiellement un petit peu?
Ouais, ils font partie des acteurs avec lesquels on va travailler, ouais.
Candice Marshall?
Oui, le nerf de la guerre, il est là. Qu'est-ce qui est vraiment écouté sur tout ce qui est téléchargé? Moi-même, j'ai téléchargé énormément de podcasts. Moi-même, je suis arrivée au bout de plusieurs semaines sans les avoir écoutés avec « Votre abonnement se finit » et je le relançais par réflexe, en fait. Oui, il y a un vrai intérêt de connaître ces chiffres-là, de savoir ce qu'aiment les gens, tout simplement, et essayer de répondre à leurs attentes.
On peut donner quand même des chiffres qu'on évalue comme ça, de façon assez empirique. C'est qu'à peu près 3/4 des podcasts téléchargés sont écoutés. On ne sait pas combien de temps ils le sont, et ça dépend évidemment des formats et des types d'émissions qu'on télécharge. On peut estimer aussi qu'à l'échelle mondiale, on a eu 15 milliards de téléchargements de podcasts l'année dernière, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Le top 10, le top 20, tout ça, on doit s'en remettre à ce que nous disent les plateformes, dont on ne sait pas comment les classements sont constitués, donc on ne sait pas grand-chose.
Gabriel Boeri.
Ouais, je rejoins Laurent Frisch, je suis pas très inquiète sur la conversion entre le téléchargement et l'écoute. Des études Cali ont montré que c'était souvent le cas. Par ailleurs, les gens écoutent de plus en plus en streaming, c'est-à-dire s'ils sont vraiment pas sous terre ou dans un TGV avec une trop mauvaise connexion, ils vont lancer le programme, ils vont s'en fiche de savoir si c'est des téléchargements ou du streaming. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, au-delà des chiffres...
Mais il n'y a pas une saturation par rapport à l'abonnement, un peu ce qui a tué, pour une part, je ne sais pas, le Google Reader, les flux RSS, c'est-à-dire que vous avez tous ces podcasts qui s'accumulent, souvent il vous faut une heure pour les écouter, puis vous en avez 10, 20, des centaines, et vous ne pouvez plus tout simplement les écouter.
Ouais,
même alors, si vous le souhaitez.
Parce que le gratuit tue l'intérêt parfois aussi, à force d'avoir trop de choix... et de ne pas avoir à payer pour ça, en fin de compte.
Oui, mais c'est un argument qu'on peut retourner. Si tout est gratuit, comment vous allez arriver à le monétariser?
En général, quand on n'écoute pas pendant quelques semaines, hop, on est désabonné et l'étagère arrête, les podcasts arrêtent de s'empiler. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'outils, de recommandations, de choix encore plus convaincants que l'appli podcast d'Apple. Des prestataires y travaillent et c'est très bien. Au niveau des études, moi, au-delà des chiffres, ce qui m'intéressera aussi, c'est d'avoir des éléments qualitatifs sur l'audience des podcasts. Parce que nous, à Binge Audio, on fait le pari de s'adresser plutôt aux jeunes adultes, en partant du principe que le fait que l'essentiel des podcasts aujourd'hui, ce soit des podcasts du RTN, et notamment de Radio France, hein, pour, je pense, plus de la moitié, c'est fantastique pour Radio France, mais ça crée aussi une opportunité d'offre, puisque avec des programmes plus ciblés, plus orientés vers les jeunes adultes, on peut les toucher. Aux États-Unis, désolé d'y revenir toujours, l'écoute des podcasts est notamment forte chez les 15-25 ans, 15-30 ans.
WNYC Studios. From WNYC in New York, this is On the Media. I'm Brooke Gladstone.
Voilà, célèbre podcast à nouveau, celui-ci consacré aux médias, On the Media, sur WNYC aux États-Unis. En l'occurrence, là, c'est un exemple d'émission radio diffusée partout aux États-Unis qu'on peut réécouter en podcast. Ça me permet de terminer cette émission sur ce sujet, finalement. Et puis, chacun d'entre vous pourrait peut-être citer un podcast que vous aimez en exemple de cette créativité. Parlons, pour terminer, il nous reste 3-4 minutes de créativité, justement. C'est une sorte de renaissance du feuilleton radio, le podcast. Quand moi je suis arrivé à la radio il y a déjà un moment ici, on considérait que tout avait été imaginé, tout avait été créé en radio, que c'était fini, que c'était plus le lieu de la réelle créativité, puisqu'il y avait trop longtemps que finalement c'était ailleurs que ça allait se faire. Et puis le numérique est arrivé, Internet, et on s'est aperçu que ce constat était totalement faux et qu'en réalité la créativité était incroyable grâce à Internet. On l'a vu avec les séries télévisées, on le voit avec bien sûr Facebook, Instagram, etc. Mais on le voit aussi avec les podcasts. Alors il y a des podcasts natifs qu'on ne fait que pour les podcasts, il y a aussi tout simplement des émissions, on l'a dit, qu'on se mettait à diffuser, des programmes existants. Pour terminer, nouveaux formats, nouvelles stories, nouvelles manières d'écrire, qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous a marqué les uns les autres? Laurent Frisch, peut-être, pour commencer.
Je ne sais pas par où prendre cette question tellement...
Très vaste, oui.
Tellement c'est vaste. Sauf qu'une des choses en matière de podcast par rapport à la radio, c'est... Vous voyez, là, on est en train de faire une émission de radio. On a les yeux rivés sur l'horloge qui nous dit que dans 5 minutes, l'émission sera terminée. On est dans un format très calibré pour une grille horaire.
Alors que les podcasts sont libres.
C'est une notion qui n'existe pas du tout dans les podcasts qui sont faits...
On peut faire 3 minutes et 3 heures.
Exactement. Une émission peut durer 3 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 50 minutes. Passer de l'un à l'autre allègrement. Et c'est une des libertés qui est offerte à ce format et c'est plus qu'anecdotique. C'est plus qu'anecdotique.
Candice Marshall ?
Oui, je pense que la créativité aujourd'hui, elle est hors les murs, elle est hors les studios. Elle s'exprime sur le terrain notamment et c'est cette offre justement qu'on propose nous en termes d'actu, en termes de d'histoires humaines qui va recréer cet intérêt qu'a l'auditeur pour le son, parce qu'on est en train de perdre cet auditeur, justement.
Voilà, Boxone qui sera lancé ce mardi, Gabriel Berry, Charles.
La créativité. On essaie d'en avoir à Binge Audio. On en a grâce aux talents qui œuvrent pour les programmes. Quand Super Héros fait du documentaire en faisant des récits de vie avec une approche finalement assez proche de la série, c'est créatif. Quand on fait des formats de talk, on parle d'œuvres plutôt grand public du ciné que vont voir plein de gens au grand public. Quand on fait No Fun sur le rap, on allie des territoires culturels très contemporains, très larges, et une approche critique, un télo même en un certain sens, érudite, et marier les deux, ouais, aujourd'hui je pense que c'est créatif, ouais.
Vos podcasts préférés, chacun, peut-être un exemple, éventuellement qui ne vienne pas de votre propre société, chacun.
Ah oui, le dernier Candice que j'ai écouté Marshall. Qui m'a beaucoup plu, c'est le Luxe des classes de Delphine Saltel sur Arte Radio.
Laurent Friche, il écoute tellement qu'il est, il est noyé sous ses podcasts.
C'est assez dur. Et puis par devoir professionnel, mon temps est tout occupé à écouter ceux de Radio France. Moi, j'aimerais d'ailleurs en souligner deux de Radio France atypiques, en ce sens qu'ils s'adressent à un jeune public que plus ou moins tout le monde délaisse aujourd'hui. C'est une émission de France Inter qui s'appelle La Tulu Monde Tilou et une fiction de France Culture qui était Tintin, simplement les albums de Tintin. Les deux ont des grands succès auprès des enfants et je trouve ça bien de pouvoir initier les enfants aussi à ce média de la radio par le biais des podcasts. Non, moi j'écoute, mais alors c'est aussi à des fins professionnelles parce que ça m'intéresse. Un podcast qui vient d'un fonds de capital risque de la Silicon Valley qui a investi dans toutes les grandes startups qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle A16Z. Qui vient d'un fonds qui s'appelle Andreessen Horowitz et qui parle de façon assez libre et décontracte des révolutions technologiques qu'on est en train de vivre.
Gabriel Boer-Richard, pour terminer.
Je vais commencer par un podcast américain, Reply All. Il est assez connu là-bas, mais peut-être pas forcément ici, de la société Gimlet, qui est un nouvel acteur du podcast assez important. Je crois que le slogan, comme on dit, c'est « A show about the Internet ». J'ai à la fois tout dit et rien dit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'intéresser à des histoires complètement dingues.
Mais qui concernent autour d'Internet, en fait.
Il y a forcément un lien avec Internet, mais ça veut dire beaucoup de choses. Alors, oui. Ça va être le mec qui a inventé la pub sur la pub par fenêtre, là, pop-up, qui va s'exprimer. Ça va être une histoire sur la Corée du Nord. C'est absolument fou et je recommande chaudement.
Voilà, et sur ce créneau-là, on peut citer aussi The Book Review, consacré au livre numérique Reply All, sur les social media, les réseaux sociaux en particulier, ou encore un podcast, celui de Malcolm Gladwell. Puis bien sûr, vous avez Soft Power, vous pouvez vous abonner au podcast. C'est l'émission numérique d'influence, sur l'influence. À France Culture, on se quitte avec un extrait assez incroyable. Écoutez. Un extrait de Jeanne d'Arc, hein. C'est pas un podcast mais ça aurait pu, c'est en fait la nouvelle comédie musicale new-yorkaise qui vient de débuter au Public Theatre. Je ne sais pas si c'est de grande qualité, mais en tout cas, la comédie musicale est signée Alex Timbers et Davy Byrne, hein, oui, l'ancien chanteur des Talking Heads. Un musical autour de l'histoire d'une jeune fille dans la France médiévale qui a des visions et mobilise une armée pour s'en prendre à l'ennemi occupant et qui sera brûlée, hein, comme hérétique. Jeanne d'Arc, donc, revue et corrigée par Off-Broadway. Joan of Arc est interprétée par la formidable Jo Lampert, comme quoi même une icône nationale française peut être récupéré par la culture de masse américaine. Si vous voulez en savoir plus, le New Yorker vient de publier un long article intitulé Rise Up sur la fabrication de cette comédie musicale. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à Laurent Frisch, directeur numérique à Radio France, Candice Marshall, cofondatrice de Boxon, et Gabrielle Boé-Richard, cofondatrice de Binge Audio. Merci à tous les trois
d'avoir
été avec nous ce soir. Pour aller plus loin sur les podcasts, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power. On les a publiés sur notre page, sur le site de France Culture, sur notre page Facebook, ainsi que sur Medium, où l'on a rassemblé toutes ces informations, donc sur medium.com. Pour ne rater aucun épisode de Soft Power, le podcast est disponible sur franceculture.fr ou iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Demain, dans les matins de France Culture, Nicolas Martin reçoit la philosophe Cynthia Fleury, hein, Cynthia Fleury, sur la crête dans la dernière ligne de la présidentielle. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.